Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Leur nom effraie, fascine, intrigue. Les Romanov ont régné sur la Russie pendant un petit peu plus de 3 siècles et Franck Ferrand les connaît bien. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Disons, pour être encore plus juste, que je connais bien l'histoire de certains d'entre eux. Les voilà tous réunis dans une grande galerie de portraits, réunis par Bertrand Dekers qui signe chez Pygmalion dans une collection sur les grandes familles, un ouvrage assez foisonnant.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Fabrice qui souhaite connaître l'origine de l'expression « faire la tournée des grands ducs ».
Ben vous avouerez que c'est une question de circonstance. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec Pierre, Catherine, Alexandre, Nicolas, aussi avec une certaine Elisabeth dont je vais vous parler tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'était il y a 2 ans, rappelez-vous, nous parlions du 4e centenaire de la dynastie des Romanov qui a régné 3 siècles, un tout petit peu plus de 3 siècles sur la Russie. Alors on retient évidemment le nom du dernier tsar, Nicolas II. On parle toujours de celui qui a donné à la dynastie toute son ampleur, Pierre le Grand. Évidemment la grande Catherine également avec tous ses excès. Ça ce sont les grands noms de la dynastie. Mais entre tous ces personnages et notamment entre Pierre le Grand et Catherine II, il y a une impératrice, Élisabeth Ière, qui en son temps a beaucoup fait parler d'elle, qui a été une des grandes figures de la Russie tsariste et qui aujourd'hui est un peu tombée, disons-le, dans les trappes de l'histoire. En 21 ans de règne, ça n'est quand même pas rien, on peut dire qu'elle aura donné à la Russie un nouveau souffle, qu'elle l'aura modernisé, qu'elle a fait avancer cette Russie impériale. En 1741, on est vraiment dans le cœur même du règne de Louis XV en France. Cela fait plusieurs mois que l'impératrice Anne, qui a gouverné pendant 10 ans, est décédée. L'Empire russe à l'époque est en grand désordre parce que le successeur de l'impératrice Anne, c'est un tout petit enfant, c'est le tsar Ivan VI qui n'a que quelques mois et qui ne peut donc pas gouverner lui-même le pays. Il se trouve que Ernst Johann von Biron, qui était le bien-aimé de l'impératrice Anne, qui était le son tout-puissant conseiller, a placé des Prussiens, parce qu'alors lui, il était Prussien, hein, et puis avec tout ce que ça comporte de militarisme, etc., il avait placé des Prussiens à tous les postes clés, et notamment ceux de l'armée. Il a été arrêté, il a été condamné à l'exil perpétuel en Sibérie, et c'est la nièce de la tsarine défunte, Anna Léopoldovna, qui règne ou qui plutôt exerce la régence. Elle a 22 ans, mais elle préfère, pour tout vous dire, passer ses journées au lit, elle joue aux cartes, elle mène exactement la même politique pro-prussienne que sa tante. La Russie, à l'époque, est au milieu de toutes sortes de conflits. Une guerre de 5 ans contre la Pologne vient de la rendre exsangue, mais on se bat aussi contre les Turcs. Il faut imaginer l'anarchie ambiante, hein, des exécutions qui sont nombreuses, un servage qui reste très présent dans toutes les campagnes et très strict, des impôts qui écrasent la société russe. Bref, depuis près de 2 ans, le pays va mal. Or, à cette époque, un ambassadeur est arrivé en Russie, c'est un ambassadeur de France, il s'appelle le marquis de la Chétardie. Il a 34 ans, il est arrivé en Russie, alors faut imaginer ce que c'est qu'une ambassade de l'époque, hein. Il est arrivé avec 12 secrétaires, 6 cuisiniers, 50 pages et laquais, tout ça avec un train, des carrosses à n'en plus finir et des traîneaux, etc. bien entendu. Il n'a pas hésité à demander à la cour de Versailles qu'on lui envoie 100 000 bouteilles des meilleurs vins français. Enfin, vous voyez un peu le genre d'arrivée discrète qu'on peut faire dans la nouvelle capitale impérial. Cet homme a beaucoup d'ambition à 34 ans et il comprend très vite qu'il n'y a en vérité personne, j'allais dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion si vous me passez cette expression très anachronique. Il se trouve qu'à l'époque, la Suède vient de recevoir l'appui financier de la France pour une nouvelle guerre contre la Russie. Or, la diplomatie en vigueur risque d'entraîner tout simplement des rétorsions et une guerre de la Russie contre la France. Il faut donc mettre à la tête de l'Empire russe une personnalité francophile afin d'empêcher ce conflit et d'assurer une alliance durable entre la France et la Russie. Ça, c'est l'ambition de la chancellerie à Versailles et évidemment le roi Louis XV fait partie de ceux qui sont le plus motivés par cette perspective. Eh bien, la personnalité qu'on va choisir pour remplacer l'espèce de régente anti-française du moment, c'est Elisabeth Petrovna. Petrovna parce qu'elle est la fille de Pierre, mais oui, elle est la fille du tsar Pierre le Grand. Alors, qui est-elle, cette Elisabeth? De son côté, elle a 31 ans. Il faut imaginer une femme assez plantureuse, même resplendissante, des cheveux châtains, une bouche charmante, des yeux bleus expressifs. À 32 ans, nous dit Jean Descartes, Elisabeth avait un grand appétit de tout. Aimait la vie, les alcools puissants, la bonne chère, la danse, la mode française, les mascarades qui lui permettaient de se déguiser en homme et d'en surprendre quelques-uns. Elle est donc la fille de Pierre le Grand, mais elle est surtout la fille de la dernière épouse de Pierre le Grand, sa seconde femme, la fameuse Maria Skavronskaya, qui était une fille de ferme, qui avait été cantinière. Cantinière, quand on suivait les armées impériales, inutile de vous dire qu'elle était surtout et d'abord prostituée. Elle avait été découverte et sauvée, si je puis dire, par un pasteur à qui elle avait sauvé la vie au passage. Mais enfin bon, je vais pas vous raconter toute la vie de Catherine. Elle a été capturée par les Russes, offerte à des hauts officiers russes, puis de là à Pierre le Grand comme esclave, comme servante. Et puis Pierre le Grand s'était pris d'elle et il l'a rebaptisée Catherine dans la foi orthodoxe. Elle est devenue, il l'a épousée, elle est devenue l'impératrice de toutes les Russies. C'est sans doute un des destins les plus fracassants de l'histoire. Petite, la destinée d'Élisabeth était toute tracée. On a voulu la marier de son côté à l'enfant roi Louis XV, sauf que, évidemment, étant la fille de qui je viens de vous dire, ça ne pouvait pas passer, ça c'était pas possible, elle était trop bâtarde. Pourtant, son père, Pierre le Grand, avait fait en 1717 le voyage exprès à Paris pour aller négocier avec le régent Philippe la possibilité d'un mariage. Ça n'avait rien donné. Après la mort de ses parents, Pierre le Grand puis l'impératrice Catherine, Élisabeth a été, disons-le, mise à l'écart. Pendant tout le règne de la tsarine Anne, elle a été surveillée comme le lait sur le feu, obligée de quitter la cour pour se rendre à Moscou. Et c'est à Moscou qu'Élisabeth a fait la rencontre du fameux marquis de la Chétardie. Est-ce qu'ils ont été amants ? Très probablement. Élisabeth est célibataire à l'époque. La Chétardie demande à Élisabeth de sortir de sa retraite moscovite, de rejoindre Saint-Pétersbourg. Il faut vous dire qu'il a un allié dans la place qui s'appelle Lestocq, qui lui est arrivé en Russie sous Pierre le Grand. C'est un Havrais d'origine huguenote qui est à la fois guérisseur, chirurgien, un petit peu magnétiseur, un homme de confiance. Élisabeth va donc sortir de sa réserve, elle va sortir de Moscou et surtout, elle va profiter de l'immense popularité dont elle jouit dans la soldatesque russe.
Thank you.
Un extrait du ballet féerique Casse-Noisette de Tchaïkovski sur Europe 1 par le chef d'orchestre Léonard Bernstein.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et on vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur l'impératrice de Russie, Elisabeth Ière.
Avec l'espèce de tempérament un peu androgyne qui est le sien, la fille de Pierre le Grand, Elisabeth, a une popularité inouïe, notamment dans le régiment de la garde, le régiment Preobrajensky. Elle est très présente, elle vient boire avec les soldats, elle fait la fête avec eux, on célèbre notamment les anniversaires du régiment. Elle a accepté d'être la marraine de plusieurs des enfants de ce régiment Preobrajensky. Le 22 novembre 1745, la régente Anna va demander à Elisabeth de renvoyer les stocks, dont elle se méfie quand même, et de cesser toute relation avec cette espèce d'ambassadeur français, ce lâcher tardi, dont la régente se méfie beaucoup. Évidemment, la fille de Pierre n'écoute pas du tout ce qu'on lui dit. Et dans la nuit du 24 au 25 novembre 1741, avec l'aide de la garde et avec l'aide de quelques proches, elle va se diriger vers l'état-major des Preobrajensky et elle va retourner ses 300 soldats. Alors vous allez me dire 300 soldats pour conquérir tout l'Empire russe. Oui, mais encore une fois, on est dans un état d'anarchie complet et ces 300 soldats, c'est un régiment d'élite qui connaît exactement chaque rouage du gouvernement de Saint-Pétersbourg. La robe d'Elisabeth est recouverte d'une cuirasse. Dans sa main droite, elle porte une croix en argent. Elle lève la croix et elle lance aux soldats « Qui voulez-vous servir fidèlement ? Moi, la souveraine naturelle de la Russie ? Ou les autres, là, qui ont volé illégalement mon héritage ?» Évidemment, les soldats l'acclament. Elle est un peu élue, comme l'étaient autrefois les empereurs de Rome, par acclamation. Ils embrassent ses mains, on baise la croix, et dans la nuit glacée, il est 11h maintenant, Elisabeth et les soldats marchent vers le palais d'hiver. On en a vu d'autres dans l'histoire russe, des marches vers le palais d'hiver. Celle-ci va être victorieuse. Elisabeth s'avance à pied, elle a un fusil à baïonnette, elle a même mis des grenades dans ses poches. Vous imaginez, on dit qu'elle dérape sur la neige. Il y a des sergents qui la portent, hein, qui l'empoignent, non sans mal, parce qu'elle est un petit peu lourde quand même. Elisabeth va finalement entrer sans difficulté dans le palais. Elle se déplace à travers les escaliers, les couloirs, jusqu'à la chambre de la régente. Et là, elle pénètre dans la chambre d'Anna Léopoldovna et elle lui dit « Il est temps de vous lever, ma petite sœur. » Alors, elle est au lit avec son mari, le prince de Brunswick, la régente. Sauf que Brunswick n'a pas d'armes sous la main pour se défendre. Entre parenthèses, c'est un bonigo dans la circonstance. Anna et son mari vont devoir se rendre. Elisabeth va prendre à ce moment-là, dans son berceau, le jeune Ivan VI, qui n'a qu'un an. Vous imaginez, elle lui dit « Mon pauvre enfant, tu es innocent, mais tes parents, eux, sont coupables. Il est 1h du matin, ce 25 novembre 1741, le coup d'État est terminé, il n'y a pas eu la moindre effusion de sang. Elisabeth Petrovna est désormais impératrice de Russie. Alors les ministres, tous ceux qui avaient servi Anna et son mari, sont conduits à la forteresse Pierre et Paul, tandis qu'un traîneau emmène les traîtres, emmène Anna et emmène le duc de Brunswick vers une maison bien gardée. Dans la nuit, le froid est très vif, hein, on est à Saint-Pétersbourg, ne l'oubliez pas, la foule se rassemble au palais d'été pour féliciter la nouvelle impératrice. L'ambassadeur de France, Lâcher Tardy, devient pour les soldats, je cite, « leur père, leur protecteur et le restaurateur du sang de l'empereur Pierre ». On voit appliquer le fidèle Lestoc, qui va devenir comte. D'ailleurs, on lui donnera même le grand cordon de Saint-André, etc., avec 1,5 million de livres, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que derrière, il y a la diplomatie secrète de Louis XV et il y a les fonds qui viennent directement de Versailles. Quelques jours plus tard, Elisabeth écrit d'ailleurs au roi de France pour lui faire part de son amitié. Le 25 avril 1742, elle sera couronnée à la cathédrale de la Dormition de Moscou. On raconte qu'elle a épousé secrètement son amant, l'ancien cosaque Alexis Razumovski, avec qui elle aurait eu une fille, une religieuse cloîtrée toute sa vie sous le nom de sœur Dossiphéa. Ça, entre parenthèses, c'est une belle énigme historique, mais je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour parce que c'est un beau sujet. Alors, que fait Lâcher Tardy pendant ce temps-là? Eh bien, Lâcher Tardy se vante. Après tout, il est à l'origine du coup d'État. Il est à l'origine de la mise sur le trône de cette impératrice Elisabeth. Et le voilà qui, dans la correspondance privée et même secrète et codée qu'il entretient avec le roi Louis XV, il fait part d'un certain nombre de détails sur sa vie privée, sur les nuits qu'il a passées avec Elisabeth, etc. « Oh, elle est bien gentille, » dit l'ambassadeur de France, « mais elle a les hanches d'une cuisinière polonaise et elle n'aime pas pas se laver souvent. C'est pas tellement la description qu'on donne d'elle à l'époque. Hein. Voilà ce que nous dit l'ambassadeur d'Espagne à propos d'Elisabeth. La couleur de son visage est étonnante, ses yeux comme deux flammes, sa bouche parfaite, son cou d'une blancheur éclatante et son port de déesse. Elle est de haute taille, extrêmement vive, elle danse très bien, monte à cheval sans la moindre peur et dans sa conversation, il y a tellement d'esprit, tellement de charme. Mais oui, mais c'est tellement mieux pour la chétardie de raconter tout ce qu'il peut dire. Évidemment, la correspondance en question finit par tomber entre les mains des ennemis. Un mathématicien qui s'appelle Christian Goldbach, qui est un Prussien, va finir par déchiffrer le code des correspondances et Elisabeth se retrouve avec les ragots de la chétardie sous les yeux. Évidemment, elle est furieuse. Alors on se dit, elle va faire un bain de sang. On est en Russie, que diable! Et c'est bien une tsarine du XVIIIe siècle? Pas du tout. Il est simplement disgracié, le beau marquis de la chétardie, et il part en exil en Italie. Elisabeth, il faut le dire, ne veut pas d'effusion de sang. Et d'ailleurs, contrairement à ses prédécesseurs, elle refuse les condamnations à mort. Il n'y aura aucune exécution pendant ces 20 années de règne. Vous imaginez ça? Alors évidemment, les condamnés sont quand même marqués au fer rouge par un signe. Hein. On marque les voleurs au front. On peut les mutiler. Pour certains, on les envoie aux travaux forcés, etc. dans les mines de Sibérie. Tout ça, certainement. Mais il n'y a pas d'exécution. Elisabeth Ière se veut un modèle de monarque. Et n'oubliez pas qu'on est à l'époque des despotes éclairés. Alors évidemment, la haute figure de Catherine II va finir par éclipser complètement celle d'Elisabeth. Et l'on va, avec le temps, ne plus parler que de Catherine. Mais le premier grand despote éclairé de Russie, c'est bien Elisabeth, qu'on voit travailler elle-même, potasser ses dossiers. Elle travaille beaucoup, principalement la nuit. Elle dort à 6h du matin, après une nuit de travail, elle se repose pendant la journée. En revanche, elle va mettre des mois à signer le moindre document. Elle a un gros problème, si l'on peut dire, cette impératrice, c'est qu'elle prend tellement à cœur son travail qu'elle est devenue très indécise. Par exemple, en 1748, au moment de la fin de la guerre de succession d'Autriche, elle commence à écrire son prénom, enfin, elle signe de son nom d'impératrice, hein, sur un traité. Et puis elle pose sa plume, elle interrompt la formalité et elle finira les trois dernières lettres de la signature seulement 6 mois plus tard. Elisabeth est nettement plus rapide lorsqu'il s'agit de souligner des oukases et de désigner le genre de robe qu'il faut pour porter à telle ou telle occasion. Il faut dire qu'elle multiplie les bals, les réceptions. Au cours d'un incendie, on apprend par exemple qu'elle a perdu 4000 robes. Ça veut dire qu'elle les avait, hein, quand même. Vous imaginez ce que c'était qu'en plus les robes de cour à cette époque, brochées d'or et d'argent, couvertes de bijoux. À sa mort en 1762, sa collection comportera jusqu'à 15 000 robes, plusieurs milliers de paires de chaussures et autant de bas de soie. Dans la lignée de son père Pierre le Grand, Elisabeth Ière est, on peut le dire, une souveraine immense. Elle est une souveraine de haute stature et elle a décidé de marquer l'histoire.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire en ce jeudi de l'Ascension et vous pouvez à tout moment nous envoyer vos messages et vos questions. Chers auditeurs, nous vous attendons sur la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Vous restez avec nous, les Romanov sont au cœur de l'histoire et vous continuerez de nous parler, Franck Ferrand, de la tsarine Elisabeth Ière.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Elisabeth la Clémente est au cœur de l'histoire. Vous nous racontez, Franck Ferrand, la vie de celle qui fut impératrice de Russie au XVIIIe siècle sous le nom d'Elisabeth Ière de Russie.
Elle est bien la digne fille de son père, cette Elisabeth. On la voit développer l'industrie, enfin les manufactures, on va dire, pour l'époque. Et notamment tout ce qui concerne le fer, qui va prendre une grande importance sous son règne. Elle abolit toutes ces petites douanes, vous savez, qu'on appelle l'octroi, pour redynamiser le commerce. L'ancien système des taxes est remplacé par un système beaucoup plus intelligent. Des banques gouvernementales sont créées. Et puis, c'est ce qui peut-être nous marque le plus, nous, aujourd'hui, c'est la culture extraordinaire qui se développe sous ce règne, au point qu'on parle d'un baroque élisabétain. Alors, rien à voir avec le élisabétain anglais, bien entendu. C'est ce baroque de l'époque d'Élisabeth qui va voir fleurir tous ces grands palais qui font aujourd'hui encore la gloire et la splendeur de Saint-Pétersbourg. Un architecte comme Bartolomeo Rastrelli, par exemple, hein, le fils d'un grand sculpteur qui était déjà venu en Russie du temps de Pierre le Grand, Ivan va multiplier les palais à Saint-Pétersbourg même, dans les environs immédiats, je pense au merveilleux couvent Smolny par exemple, et puis bien entendu dans les diverses résidences de l'impératrice et notamment à Tsarskoye Selo, bien sûr. Les collections d'art sont extraordinaires, les palais sont tous plus brillants les uns que les autres, les collections d'œuvres d'art se développent. Bref, on est dans une véritable période de brio, dans une véritable période de rayonnement pour la Russie. C'est quand même étonnant, quand on sait tout ça, de voir à quel point Élisabeth a finalement été éclipsée dans l'histoire. On en parle tellement peu. Alors elle a des conseillers aussi, notamment un certain Lomonossov qui a été élu en 1741 à l'Académie des sciences et qui va fonder l'Université de Moscou. Il y a également un très riche collectionneur, possesseur d'une merveilleuse galerie de tableaux qui s'appelle Ivan Chouvalov. Et ce Chouvalov va devenir le premier ministre de l'éducation en Russie. Car pour la tsarine, le développement de la Russie passe aussi par l'élévation du niveau culturel, sinon de toutes les masses russes bien entendu, mais en tout cas d'une partie de la société. Carrière étonnante du reste que celle de ce Chouvalov qui a été page à la cour, qui est devenu chambellan, lieutenant, aide de camp, qui sera évidemment chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre. Disons-le, et vous l'aurez compris, il est le favori d'Élisabeth. Et d'ailleurs, c'est à lui que Voltaire est toujours en quête d'un mécène, il est toujours en quête de quelques subsides. Eh bien, c'est à Chouvalov que Voltaire s'était adressé pour écrire une vie de Pierre le Grand, dont il a reçu commande et finance. Pour le reste, je vous laisse deviner ce qu'il est advenu de ce grand chantier. La tsarine s'inspire de la France, ça c'est certain. Elle parle d'ailleurs très bien le français, c'était la langue la plus répandue à la cour de Russie. Elle parle également très bien l'italien, l'allemand, le suédois, le finnois. Elle a eu un précepteur français. Il faut rappeler que la Russie, sous son règne, est particulièrement proche de la France. Dites-vous par exemple qu'un agent, le très célèbre agent, le chevalier Déon, vous savez, dont on dira plus tard lorsqu'il sera en mission à Londres, qu'il était un jour homme, un jour femme, et sur le compte duquel ont couru tant et tant de légendes, ce chevalier Déon est à la cour de l'impératrice Élisabeth. Du reste, c'est l'époque où un grand nombre de livres français sont traduits en russe. Élisabeth va se faire peindre par Vanloo, le portrait de Louis XV. Le premier journal qui paraît à Saint-Pétersbourg en 1754 paraît sous un titre français, le Caméléon littéraire, et puis c'est évidemment sous le règne d'Élisabeth que la manufacture de Sèvres va prendre une telle extension. Vous savez que les commandes de la cour de Russie sont tout simplement phénoménales et qu'elles alimentent beaucoup les carnets de commandes de Sèvres. Il faut vous dire aussi qu'à l'époque, la Russie est sous l'égide de deux capitales en quelque sorte. Vous avez la ville sainte orthodoxe, la capitale historique en quelque sorte qui reste Moscou, et puis le siège de l'administration impériale, résidence de la cour, ce siège fondé en 1703 par le père d'Élisabeth, c'est évidemment Saint-Pétersbourg, ville moderne qui va connaître sous son règne des transformations absolument extraordinaires. Alors, c'est vrai que dans les dernières années de sa vie, Élisabeth est devenue d'abord très grosse, elle a toutes sortes de problèmes, elle est victime d'une attaque cérébrale en 1756, d'une autre en 1758. Elle est tellement mal qu'on dit qu'il faut la maquiller pendant 5 heures avant les grandes cérémonies officielles, car elle veut apparaître comme si de rien n'était, mais elle est littéralement maquillée comme un cadavre, si vous me passez la comparaison. Elle se déplace très mal dans des espèces de petites voitures, elle a toutes sortes d'hémorragies, elle fait des crise d'hypertension, elle est dans un état de dépression quasi permanente, d'ailleurs elle est à moitié aveugle, et c'est le jour de Noël 1761 qu'elle subit une crise d'apoplexie qui va finir par l'emporter 4 ou 5 jours plus tard, le 5 janvier 1762. Elle a 52 ans à cette époque-là. Sa mort a été un grand événement à l'échelle de toute l'Europe. Le roi de Prusse va écrire dans ses carnets, le jour de la mort, le roi de Prusse c'était Frédéric II, c'était son grand ennemi, morte la bête, mort le venin, écrit-il. Elle n'en sera pas moins enterrée à la cathédrale Pierre et Paul de l'île Vassilievski, à côté de son père, Pierre le Grand. Celui qui lui succède officiellement, c'est Pierre III, mais vous savez que dans l'ombre de Pierre se tient déjà celle qui, d'origine allemande, va bientôt prendre le pouvoir, cette Catherine qui très vite éclipsera Élisabeth. Bonjour Bertrand de Kers.
Bonjour Franck Ferrand.
Ça me fait très plaisir de vous recevoir pour parler de tous ces Romanov, dont Elisabeth n'est évidemment pas la plus célèbre. C'est une galerie de portraits que vous nous proposez.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La danse russe, un extrait du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski sur Europe 1 par le chef d'orchestre Léonard Bernstein. L'impératrice de Russie, Elisabeth Ière, et les Romanov sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le journaliste spécialiste des têtes couronnées et du Gotha, Bertrand Dekers, auteur de l'ouvrage Les Romanov, paru chez Pygmalion.
Alors avant de revenir sur un certain nombre de figures, Bertrand, et surtout sur les grandes thématiques de cette famille qui a totalement dominé la Russie pendant 3 siècles, un mot de cette Elisabeth qui était un personnage quand même, un personnage truculent, marquant, véritablement impérial.
Oui, fabuleuse Elisabeth, effectivement. Oui, j'intitule mon chapitre « Tout en douceur » parce que, effectivement, elle est, lorsqu'elle prend la tête après ce coup d'État, tout se passe merveilleusement bien, pourrions-nous dire. C'est la première fois, c'est inédit. Qu'en Russie,
il n'y a pas trop de sang.
Il n'y a pas une seule goutte de sang qui est versée. Ouais. C'est la deuxième fille, vous le disiez aussi, du fabuleux Pierre le Grand. Elle a été évincée sous prétexte de sa naissance hors mariage. Mais c'est une jolie revanche qu'elle prend là. Et en quelque sorte, c'est la gloire du père qui éclaire le destin de la fille, pourrions-nous dire.
Ah, c'est vrai,
elle est consciente qu'elle n'a pas suivi de formation. Vous le dites, ce qui lui cause des crises de doute abominables. Mais en même temps, elle va mettre énormément de choses en œuvre que pour marquer l'histoire et devenir une grande tsarine. Elle est la première à écrire elle-même à la plume, par exemple, qu'effectivement, elle, seule le Dieu, a le droit de reprendre la vie et que sous son règne à elle, il n'y aura pas
d'exécution. Et Dieu sait qu'il y en avait avant. Alors ça ne veut pas dire que toutes les violences sont abolies sous le règne d'Elisabeth, loin de là, mais il y a une civilisation de la Russie incontestablement à ce moment-là. Elle bénéficie, comme vous le dites, de la gloire de son père et elle bénéficie aussi de son punch, de son talent propre. C'est une femme qui a une vitalité inouïe. Elle est femme dans tous les sens du terme.
Elle choisit d'emblée de marcher sur les traces de son père puisque c'est Pierre le Grand qui a fait ériger Saint-Pétersbourg. Il n'y avait à la base là-bas que de l'eau, mais Pierre le Grand a fait ériger, selon la mode de l'époque, des constructions, des palais, des avenues, des ponts, essentiellement en bois. Élisabeth Ière, c'est elle réellement qui décide de transformer le tout en pierre. C'est donc réellement aussi sous son règne que Saint-Pétersbourg va commencer à avoir le visage qu'on lui connaît, peut dire aujourd'hui.
Et une grande partie des monuments que nous visitons avec tant de plaisir aujourd'hui, même s'ils ont été revus et corrigés sous les règnes de Catherine II, de Nicolas Ier, etc., une grande partie de ces monuments sont dus au départ à l'impératrice Élisabeth. D'ailleurs, quand on visite Saint-Pétersbourg, on dit souvent construit sous Élisabeth Ière. Et c'est d'autant plus étrange qu'on n'en parle pas tellement. Alors, cette impératrice, elle a été éclipsée par deux très grandes figures que sont Pierre le Grand, évidemment, et Catherine la Grande, comme leur surnom l'indique, on comprend qu'on est en présence de personnages tout à fait majeurs. Qui a fondé cette dynastie en 1613? Qui était-il, ce Myril Fiodorovitch, en fait? Ce tout premier Romanov à régner, si je puis dire. Michel Ier.
Hein. Oui, Michel Ier. Michel Ier donc monte sur le trône en 1613. C'est le Zemski Sobor, ce qu'on pourrait qualifier des états généraux. Le 21 février 1613, qui décide de son élection. Alors, il est pourquoi lui, en quelque sorte? Quelle est sa légitimité? Son grand-père, Nikita Romanov, le seigneur Nikita Romanov, était le père de la première épouse d'Ivan le Terrible.
Donc ça lui donne un tout petit lien avec le pouvoir.
Il y a effectivement une prétention.
Mais ce pouvoir, il va le conquérir avec l'appui des fameux boyards. Faut expliquer ça, cette noblesse très puissante.
Voilà, on vient le chercher, dans un petit monastère à Ipatiev, puisque sa mère est religieuse, à 5 jours de Moscou. Il n'est absolument au courant de rien du tout. Et sa première réaction, c'est qu'il refuse ce trône. Il dit, cette histoire n'est pas la mienne. Et c'est sa mère, déjà derrière, qui comprend un petit peu les enjeux qu'il y a, qu'il le force à accepter ce trône. Et d'emblée, c'est réellement sa mère qui va prendre les pouvoirs.
L'ironie de l'histoire veut qu'en 1918, lorsqu'on va rapatrier la famille impériale de sa Sibérie, là-bas de Tobolsk, qu'on va la ramener jusqu'à Yekaterinbourg, on l'emprisonne dans une maison qui, ça n'a rien à voir, mais le hasard des mots fait que ça s'appelle la maison Ipatiev. Donc la dynastie des Romanov est née dans le monastère d'Ipatiev où se trouvait Michel Ier, et elle va mourir au moment des terribles la conflagration de juillet 1918 dans la maison Ipatiev de Yekaterinbourg. Entre les deux, plus de 3 siècles d'une dynastie extraordinaire. Alors, évidemment qu'on pourrait revenir sur l'autorité de Pierre le Grand, sur le génie de Catherine, sur l'incroyable talent diplomatique d'Alexandre Ier, sur la force de Nicolas Ier, sur l'ouverture politique et la dimension réformatrice d'Alexandre II, sur la puissance en péril d'Alexandre III, et puis, bon, bien sûr, sur la fin avec Nicolas II. On pourrait revenir sur toute cette histoire Romanov. Mais ce que je vous propose, Bertrand, c'est d'évoquer un certain nombre de grands thèmes de cette dynastie Romanov, plutôt que de faire la suite comme dans un catalogue de timbres, à la suite des souverains. D'abord, peut-être l'importance, et ça c'est lié à des règles dynastiques toutes simples, l'importance des femmes, car quand même, on a parlé de Catherine, on a parlé d'Anna, d'Elisabeth, de la deuxième Catherine, les femmes ont régné pendant longtemps, pendant presque un siècle sur cette Russie.
Oui, effectivement, elles ont un rôle prépondérant en Russie au sein des Romanov, et elles sont à la base, à l'origine aussi, de décisions importantes qui vont être prises. On dit, d'ailleurs, il y a une expression qui dit la Russie est habituée à être gouvernée par des jupons. On vous dire à quel point effectivement la femme va avoir cette importance, et aussi ce qui explique que ces Romanov sont si pétillants, c'est que les femmes, elles sont un peu dépensières, elles aiment la mode, elles aiment les jolies choses, donc il y a vraiment matière. C'est effectivement une dynastie qui offre des scènes absolument fascinantes.
Alors, ces femmes vont souvent donner un pouvoir très important à certains des hommes de leur entourage.
Oui, elles délèguent beaucoup.
On a évoqué donc un certain nombre de personnalités. Là, le Biron qui dominait complètement Anna, Chouvalov pour l'impératrice Elisabeth.
Catherine de Potemkin.
Alors, Potemkin, bien entendu, entre autres d'ailleurs, ceux qui ont beaucoup conseillé Catherine II. Finalement, ces grands dignitaires de Russie avaient tous une même idée, qui était moderniser le pays. Mais il était tellement arriéré, ce pays, il en avait tant besoin, d'après vous ?
Disons que la Russie est très grande, c'est un territoire absolument immense. Pour vous donner une brève idée, la Sibérie, qu'il qualifie comme une province de l'Empire russe, en quelque sorte, a fait à elle seule 25 fois la France. Donc vous imaginez. Donc effectivement, pour que la formation circule, pour que les choses arrivent, il fait très très froid aussi, la Russie est un peu comme isolée du monde. Et oui, c'est Pierre le Grand le premier, qui est le premier à constater que son pays est un peu léthargique.
Alors, le grand modèle de tous ces tsars Romanov, qui sont eux tournés vers l'Occident, comme l'avait été Pierre le Grand, qui est leur modèle. Il ne faut pas oublier que quand Pierre le Grand est mort, il a laissé un testament politique qu'on faisait lire à chaque tsar et à chaque tsarine le jour de son sacre, pour qu'il s'imprègne de la doctrine politique des Romanov, en quelque sorte. Évidemment. Et tous ces tsars et toutes ces tsarines ont les yeux rivés vers l'Occident en général, vers la France en particulier, vers Versailles et vers Paris. C'est ce qui explique notamment le caractère peut-être un peu philosophe de Catherine II, par exemple.
Oui, on peut dire cela, puisque Catherine II, d'emblée, cherche vraiment par tous les moyens possibles et inimaginables de s'allier des amitiés françaises, et elle y parvient avec Diderot. Elle devient la grande amie des correspondants de Diderot, de Voltaire, entre autres, et tout cela. Et elle doit vraiment ruser pour ce faire. Elle va jusqu'à racheter la bibliothèque personnelle de Diderot, qui est complètement ruinée, et elle lui dit « Venez me voir en Russie, et je laisserai à votre disposition tous ces ouvrages qui vous tiennent tant à cœur. » Donc elle doit quand même aller jusque-là. Diderot n'est pas très, très, très friand du voyage qui doit durer plusieurs mois, voire presque une année entière avant
d'arriver. Elle était littéralement amoureuse de Voltaire aussi, l'impératrice Catherine.
Oui, 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 bien sûr.
Et Voltaire ne voulait pas faire le voyage, d'abord parce qu'il avait de mauvais souvenirs de son voyage en Prusse chez Frédéric II, et puis il était âgé, il avait peur de ne pas supporter, c'était un très très grand et très difficile voyage. Et puis il avait surtout peut-être peur qu'en le voyant tel qu'il était devenu, un peu le vieillard chenu et décrépit, peut-être que Catherine perde un peu de cet amour extraordinaire qu'elle vouait à une statue finalement.
Ils vont néanmoins échanger une correspondance truculente.
Extraordinaire.
Extraordinaire.
Alors, cette Russie, c'est une Russie des femmes, une Russie des amants de ces femmes, une Russie des trahisons aussi, il faut bien le dire. Il y a eu des trahisons terribles dans cette histoire,
oui,
on pourrait les multiplier.
Oui, oui, il y a des histoires complètement rocambolesques, que ce soit pour les coups d'État que vous évoquiez tout à l'heure, ou des histoires simplement plus légères aussi. Il y a des tsarines qui trompent leurs époux, par exemple. Il y a des époux qui se vengent et qui tranchent des têtes, qui les exposent sur des cheminées dans des bocales de formol,
ah
par
oui,
exemple.
Quand même,
ça
oui,
va jusque-là.
Oui,
c'est une...
Des mœurs russes quand même. Oui,
oui, voilà. Ce sont des épopées assez extraordinaires à raconter.
Avec des histoires d'amour aussi toutes magnifiques, on comprend mieux à la lueur de tous ces éléments pourquoi les Romanov fascinent tant les amoureux d'histoire, en fait. On peut dire que cette dynastie réunit tous les ingrédients qui font vendre un livre d'histoire, disons-le. Des crimes, des trahisons, des amours, des... tout ce qu'on peut imaginer.
De la splendeur,
et
la
puissance.
De la solennité, de la trahison. Oui, c'est vrai. On dit qu'un vrai russe, tout vrai russe qui se respecte, aime l'alcool et aime boire, et ce, dès le matin. C'est comme cela que l'on fonctionne en Russie. Ce qui explique probablement toutes ces choses un peu inédites et inouïes, c'est que lorsque les tsars agissent, lorsqu'ils signent leurs décrets, lorsque les idées leur viennent, ils ne sont pas totalement sobres.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Des histoires d'amour, des histoires de trahison, la dynastie des Romanov est au cœur de l'histoire. Votre invité Franck Ferrand, le journaliste spécialiste des têtes couronnées, Bertrand de Kers, auteur du livre « Les Romanov » paru chez Pygmalion.
Alors, vous nous parlez de choses un peu légères, Bertrand de Kers, et d'ailleurs votre livre est constamment émaillé de petites anecdotes, de moments comme ça. Vous vous êtes délecté hein, de toutes ces...
parenthèses.
Oui, voilà.
Oui. La petite histoire, je pense, qui amène la grande.
Mais cette petite histoire, elle est fondamentale dans l'histoire des Romanov, parce qu'elle nous les fait comprendre et elle nous fait entrer dans l'intimité de cette famille quand même tellement inaccessible. Par ailleurs, il faut imaginer qu'ils sont tout à fait au sommet d'une immense pyramide. Le tsar de Russie est quasiment déifié, ou la tsarine. Alors, ça d'accord, je veux bien, mais parlons un peu de crime, parlons un peu de sang. Il y a eu quand même des épisodes épouvantables. L'un de ceux que nous avons raconté déjà à ce micro, mais qui est inouï, c'est la fin du pauvre, enfin je dis le pauvre, en même temps personne ne l'a vraiment regretté, mais c'est la fin du tsar Paul Ier. Le fils de Catherine II, donc.
Qui est effectivement assassiné par, sur ordre en quelque sorte, de son fils, donc futur Alexandre Ier. Paul le Fou est à la tête d'une montagne d'oukases, donc de décrets plus extravagants les uns que les autres.
On l'appelle Paul le Fou, tout est dit.
On l'appelle Paul le Fou, oui, oui. Et alors, vous savez, il sait que ses jours sont en danger. Il sait très bien qu'il y a des choses qui se trament. Et il a cette particularité, puisqu'il a peur, chaque nuit, il change de chambre, qu'il verrouille, bien entendu. Donc, tout cela, à nouveau, il faut lire le récit pour en être parfaitement informé, mais prend des proportions complètement inouïes, parce qu'à nouveau, on ne sait pas trop bien où il se trouve. On est obligé d'écumer plusieurs palais, de remonter plusieurs couloirs. Et oui, il est assassiné par un coup de tabatière en argent. Hein, parce que,
et alors, il s'écroule sur le plancher.
Ils veulent le faire abdiquer.
Or, juste au-dessous se trouve la chambre à coucher, où s'est recroquevillé sous ses draps son fils
oui,
qui va devenir le tsar Alexandre
oui,
Ier, et qui toute sa vie, dit-il, sera réveillé en plein milieu de la nuit par ce bruit oui, du corps de son père qui tombe juste au-dessus de lui.
Il va en être marqué à vie. C'est cette psychologie très particulière qu'il va développer, va avoir aussi un grand retentissement sur sa politique et sur l'être qu'il va devenir en tant que tsar, effectivement. Mais lorsqu'il apprend la mort de son père, il dit simplement « je ne voulais pas ça, je ne voulais pas ça » et on est obligé de l'habiller de force et de lui dire « allez-y, debout, régnez maintenant ».
Alexandre Ier a été un des grands souverains de la Russie. C'est l'ennemi de Napoléon, bien entendu. C'est l'homme des grandes batailles napoléoniennes. C'est l'homme de l'occupation russe à Paris en 1814 et en 1815. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en 1814, il va quand même offrir à Napoléon une porte de sortie puisqu'il l'envoie à l'île d'Elbe. J'allais dire presque gentiment, c'est le tsar Alexandre qui va insister pour que l'empereur des Français soit traité humainement. Ça, c'est intéressant parce que quand on se promène en Russie aujourd'hui, on est étonné de voir à quel point l'épopée napoléonienne demeure très présente et passionne les Russes. Pourtant, Napoléon les a attaqués et directement, il a fait incendier Moscou. Enfin, plus exactement, c'est pour que Moscou lui échappe qu'on a incendié Moscou, pour être tout à fait exact. Mais en tout cas, l'image napoléonienne et l'image de ce règne d'Alexandre Ier reste très présent. Et puis, ce tsar, beaucoup plus tard, va mourir. Il meurt dans le sud de la Russie. Or, certains disent qu'il ne serait pas mort, en vérité.
C'est incroyable. Oui,
il aurait survécu, en quelque sorte.
Il aurait survécu. On dit, comment est-il possible de réussir à vaincre Napoléon, comme cela, à triompher, à agrandir considérablement le territoire, à devenir roi de Pologne, hein, parce qu'il annexe également la Pologne, et à mourir, comme cela, d'une petite grippe.
Une grippe, oui.
Voilà, pour eux, c'est complètement...
D'autant plus que des décennies plus tard, certains... ont retrouvé un moine, alors vraiment dans l'Est, dans l'extrême Est, dans la Sibérie, et ce moine, il ressemble trait pour trait au tsar Alexandre, donc il est très possible qu'il ait faim, qu'il ait mis sa mort en scène pour aller vivre encore pendant des décennies.
C'est une légende qui a très longtemps circulé et qui...
Légende ou énigme, hein, parce qu'on ne sait même pas quelle est sa part de vérité. Alors ça, c'est pour la grande histoire. Disons, dans la petite histoire, vous nous dites que c'est Alexandre Ier qui a inventé le chauffe-plat.
Oui, entre autres, effectivement, Alexandre Ier est un féru de bonne cuisine et il se plaint très vite de manger froid. Donc c'est pour lui, derrière de lourdes tentures de brocart, que l'on invente pour la première fois le chauffe-plat. Et c'est la première fois donc que les plats sont servis chauds en Russie.
Et d'une façon plus générale, c'est en Russie qu'on invente notre service dit à la russe. C'est-à-dire qu'actuellement, dans tous les pays occidentaux, même un peu partout dans le monde maintenant, quand vous avez un grand dîner, vous avez des serveurs qui viennent et qui vous présentent des plats, vous vous servez dans les plats l'un après l'autre, etc. Bon, tout ce service au plat est présenté par des serveurs. C'est un service qu'on appelle à la russe, qui naît à l'époque d'Alexandre Ier et de Nicolas Ier, qui va se répandre d'abord en France, puis dans toute l'Europe, en fait.
Absolument. Vous savez, Élisabeth Ier, dont vous parliez tout à l'heure, adorait les festas, les repas et les fastes. Et elle avait pour habitude, les repas duraient 3-4 heures. Et lorsqu'Alexandre Ier arrive au pouvoir, il dit, mais c'est beaucoup trop long. Et l'une des premières choses qu'il fait, il régente la durée des repas. Ils dureront 50 minutes.
Pas une de plus. Ça, c'est à la Napoléon, un peu.
À la Napoléon, pas 49 ni 51. Ouais. 50 minutes.
Alors, il faudrait évidemment évoquer l'art russe. L'autre jour, nous recevions Vladimir Fedorovski ici même et nous parlions de l'immense Tolstoï, de l'immense Tchekhov. Il faudrait parler de Tchaïkovski, il faudrait parler de Rimsky-Korsakov, de toute cette culture russe merveilleuse qui va éblouir littéralement l'Europe, notamment sous le règne d'Alexandre III, au moment où les Français notamment se mêlent d'investir en Russie. Ce sont tous les emprunts russes qui vont développer d'un seul coup toute l'industrie, etc. Il y a quand même, à ce moment-là, de nouveau de la violence. Le tsar Alexandre II est tué dans un attentat épouvantable.
Et qui a libéré 52 millions de personnes.
C'est ça. Oui. Les serfs, c'est l'abolition de l'esclavage. Il y a quand même cette présence des anarchistes qui est très réelle et qui va devenir la bête noire des Romanov, en quelque sorte.
Il y a surtout un fossé de plus en plus important qui se creuse entre ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette Russie impériale, ces Romanov qui sont au sommet du pouvoir dans de grandioses palais, et la population qui est de plus en plus traversée par des courants révolutionnaires. Oui, effectivement. Et c'est cela qui conduit, entre autres, à la révolution.
Oui, alors on pourrait presque dire aux révolutions, puisqu'il y a d'abord celle de 1905.
Ouais, c'est un engrenage.
Et puis celle de 1905, on ne sait pas trop comment le régime survit quand même. Ça redémarre avec Stolypine, etc. Et puis de nouveau, alors là, la grande révolution de 1917, dont on sait comment elle va aboutir à la naissance du bolchevisme et de cet État soviétique. Bon, la fin des Romanov est particulièrement dramatique quand même.
C'est-à-dire que le règne de Nicolas II commence déjà très très mal. Lors du bal, du fameux bal qu'ils donnent lors de leur couronnement, il y a ce drame de la Kodinka, qui est une colline qui s'effondre, et il y a des centaines, des milliers de personnes qui meurent écrabouillées sous des masses de terre. Et très mal conseillé déjà Nicolas II à l'époque, on lui conseille de n'annuler aucune représentation, et le soir même, alors que les cadavres sont portés et sont accumulés en montagne, elle, donc la tsarine, dans une somptueuse robe blanche rebrodée de diamants, et lui dans un magnifique costume, sont en train de valser sous les lustres d'or et de cristal à l'ambassade de France.
Oui, mais parce que on a pensé que ce serait mal perçu par les délégations diplomatiques et notamment par la France que le couple impérial annule les festivités. Donc il y a un malentendu. On a l'impression que tout le règne de Nicolas II et de l'impératrice Alexandra relève du malentendu, avec notamment cette maladie du Tsarevitch qui est cachée à la population, ce qui explique qu'on ne comprend pas pourquoi cette espèce de mage Rasputin va prendre l'importance que l'on sait.
Très mal conseillé, puisque lorsque la tsarine de sa forme et demande, mais pourquoi une telle sécurité autour de nous? Pourquoi renforçons-nous encore cette sécurité? On lui dit, mais écoutez, madame, on a peur d'un attentat. Elle dit, mais qui voudrait nous tuer? Nous sommes tsar et tsarine de Russie. Qui voudrait nous tuer? Donc, ça montre bien qu'ils ne sont absolument pas au courant et conscient de la situation.
Ils ne sont pas du tout conscients. Alors, l'effondrement de cet empereur et de cette impératrice, qui s'accompagne de l'effondrement de toute une dynastie, donc de toute une famille, la plupart, certains sont tués, d'autres partent en exil.
300 ans d'histoire qui s'effondre.
Et oui, et alors, pour l'exil est très difficile pour tous ces princes. Qui s'en va ? Alors, d'abord la mère de l'empereur. Hein, qui...
Oui. Donc l'impératrice Maria Féodorovna, donc la mère de Nicolas II, elle monte sur un cuirassé. Effectivement, elle rejoint l'Angleterre d'abord et puis le Danemark.
Elle part avec une partie de ses bijoux, mais une autre partie avait déjà été empaquetée et envoyée plus tôt.
Sa fille, donc la sœur de Nicolas II, Xenia, elle trouve refuge en Angleterre par la famille royale. Alors il y a ce scandale qui dit qu'effectivement que pour payer ses rentes, la famille royale l'oblige en quelque sorte d'Angleterre à vendre ses bijoux à prix totalement démocratique, des bijoux qui aujourd'hui encore sont portés par la reine Elisabeth.
Il y a les joyaux extravagants. Il y a toute la collection de tableaux, tous les plus grands maîtres possibles et imaginables. Il y a la collection d'agate, de pierres dures. Tous ces tsars étaient de grands collectionneurs, disons-le.
Oui, absolument. C'est Catherine II, évidemment, qui lance ces collections absolument inouïes au musée de l'Ermitage, ce qui font devenir une collection absolument unique au monde. Ce sont des kilomètres de galeries. On estime aujourd'hui, pour vous donner une idée, tout cela était à titre privé, que si un visiteur restait une minute devant chaque œuvre exposée, il lui faudrait plus de 8 ans pour voir l'ensemble de ses collections. C'est pour vous montrer.
Avec, bien entendu, cette espèce de quintessence de la Russie impériale du 19e siècle, que sont les œufs de Fabergé, ces extraordinaires œufs qu'on s'offrait à Pâques, hein, qui sont des concentrés d'orfèvrerie absolument divins. Et on les ouvre, il y a des surprises, et les surprises ménagent elles-mêmes des surprises et encore d'autres surprises.
Du couronnement.
Un petit peu comme votre ouvrage, Bertrand de Kers, des surprises et de jolies histoires dans ces Romanov de Bertrand de Kers. C'est publié chez Pygmalion dans la collection Les Grandes Familles. Et dans cette collection Les Grandes Familles, on trouve par ailleurs les Hugo, on trouve les Gandhi, etc. Et à venir, les Rostand, par exemple. Donc le vôtre, ce sont les Romanov, peut-être la plus grande des familles.
Excellent jeudi de l'Ascension sur Europe 1. Vous restez avec nous au cœur de l'histoire continue et vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Fabrice sur l'origine de l'expression « faire la tournée des Grands-Ducs ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et cet après-midi, c'est Fabrice qui vous interroge, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission. Fabrice souhaiterait savoir d'où vient l'expression « faire la tournée des Grands-Ducs ».
Alors, ça tombe bien, on parlait des tsars. Voilà les Grands-Ducs maintenant. Ce terme de Grand-Duc, c'est un titre de la noblesse russe qui désigne de façon tout à fait exclusive. Il faut bien comprendre ça, parce que ce n'est pas un titre qui s'hérite, etc. Ce qu'on appelle un Grand-Duc, c'est soit un fils, soit un petit-fils d'un tsar régnant ou ayant régné. Voilà, c'est quand même relativement simple et relativement clair. Alors, ce terme de Grand-Duc naît au début-milieu du 19e siècle et il va durer jusqu'à l'effondrement de l'Empire, bien entendu, au début du XXe siècle. Du reste, on continuera d'avoir des grands-ducs, mais normalement, si l'on respecte ce principe, le titre de grand-duc ou de grande-duchesse est mort avec l'Empire, par définition. Bon, alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Ces grands-ducs, ils étaient très en vogue en France au temps d'Alexandre II, d'Alexandre III, de Nicolas II, bien entendu. C'était l'élite russe qui envahissait les grands hôtels de Paris et de la Côte d'Azur, à Nice, à Cannes, à Juvin-les-Pins, tous ces lieux de villégiature très, très prisés, notamment. Et les grands-ducs Constantin, Nicolas, un certain nombre d'autres vont venir se divertir, notamment à Paris. Ils sont connus pour très bien tenir l'alcool, c'est ce que nous disait Bertrand de Kers tout à l'heure. Et comme ils sont très fortunés, qu'ils ont des tempéraments incroyables, ils dépensent sans compter, ça dure très longtemps, on boit jusqu'au bout de la nuit et l'on passe de cabaret en restaurant et de restaurant en bar à vin, ce qu'on va appeler petit à petit à Paris faire la tournée des Grands-Ducs. Et aujourd'hui encore, faire la tournée des Grands-Ducs, c'est s'accorder une espèce de soirée fastueuse, tout simplement. Alors, rien à voir, entre parenthèses, avec le hibou, le Grand-Duc. Hein. C'est vrai que dans les deux cas, on peut parler d'oiseau de nuit, vous me direz. Mais le Grand-Duc, c'est le plus grand, le plus fort des rapaces nocturnes. Cette appellation de Grand-Duc viendrait des aigrettes qu'arbore l'oiseau sur la tête, hein, qui lui font comme des espèces d'oreilles sur la tête et qui rappellent une couronne ducale, d'où le terme de Grand-Duc en ornithologie. Mais enfin là, vous avouerez que nous sommes assez loin de nos bases.